Donc, je voulais juste rappeler ce que j'ai commencé la semaine dernière, donc avec les signes authentiques de mes conversions. Et la réflexion a été portée, juste un rappel de ce qui a été dit la semaine dernière, la réflexion a été portée dans mon esprit parce que, ben voilà, ça m'a fait penser à ce vol de la montre. Qui a été volé sur les Champs-Élysées et qui était du toc. Et ça m'a poussé à une réflexion en pensant dans mon esprit, est-ce qu'il y a des véritables, et quels sont les signes véritables d'une réelle conversion? Alors la Bible, bien sûr, en parle, et nous avons toutes sortes de textes qui parlent comment on peut se reconnaître en tant que chrétien. Et je pense que c'est important, en tout cas, nous, en tant que chrétiens, de se reconnaître et de savoir, eh bien, voilà, il est authentique, il est un authentique enfant de Dieu et il marche dans la lumière. Alors, pourquoi cette réflexion? Eh bien, parce que je pense que, au plus on avance et au plus on verra des personnes qui se disent chrétiennes ou manifestent un intérêt pour la chrétienté, mais qu'en réalité, leur vie montre bien qu'ils n'ont pas changé et qu'ils sont restés, je dirais, dans leur ancienne nature. Je voudrais juste rappeler le texte que j'ai lu la dernière fois, dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, qui dit à un moment donné, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors, ça montre bien que, quelque part, Timothée a été encouragé de Paul et d'autres personnes ont été encouragées de voir que, eh bien, un chrétien devait se reconnaître. Et une des choses que j'ai parlé la semaine dernière, c'était la repentance. Un chrétien, enfin, une personne qui vient à l'évangile, si elle ne se repent pas de ses péchés, eh bien, il y a la matière à réflexion et à se poser des questions. Est-ce qu'elle a vraiment compris le message de l'Évangile? Parce que la Bible dit clairement, au travers de la prédication de l'apôtre Pierre, mais aussi au travers du message en général, que un enfant de Dieu, quelqu'un qui se convertit, doit passer par la repentance. S'il n'y a pas repentance, eh bien, il y a matière à se poser question et se demander s'il a vraiment compris le message de l'Évangile. Quelque part, en deux mots, la repentance, c'est se reconnaître en pécheur et que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Et je pense que ça, nous devons l'avoir compris au moment où nous acceptons Jésus-Christ. Si c'est simplement une pensée, un remords, une excuse, je pense que c'est pas du tout une repentance. C'est la repentance manifeste vraiment l'esprit que c'est moi qui devais aller à la place de Jésus sur la croix et que je méritais la damnation éternelle, la mort éternelle loin de Dieu. Et que grâce à Jésus-Christ, eh bien, je suis maintenant gracié. Je suis libéré, je suis réconcilié avec le Père. Ça, c'est l'aspect de la repentance que nous devons comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Le deuxième signe, et je ne veux pas mener ici une enquête en disant, voilà, je suis l'inspecteur Colombo, et je vais essayer de voir qui est converti et qui n'est pas converti, qui a Jésus et qui n'a pas Jésus. Je pense que c'est votre problème. Et je voudrais juste vous rappeler un texte que je lisais la semaine dernière, que je voudrais vous relire ce matin. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc, quelque part, un enfant de Dieu doit se reconnaître et doit se voir. En tout cas, la Bible le dit clairement. Deuxième signe clair de la grâce, c'est la compréhension des Écritures. Je ne sais pas vous, mais moi, au début, quand j'ai commencé à lire la Bible, je n'y comprenais rien. Et comme j'y comprenais rien, ma première pensée a été, eh bien, comme j'y comprends rien, commençons par le dernier livre, le livre de l'Apocalypse. Et j'y suis allé vraiment de bon cœur dans cette affaire, je n'y ai rien compris. Après l'avoir lu les 25 chapitres, 21, pardon, chapitres du livre de l'Apocalypse, je n'y avais rien compris. Donc je me suis dit, écoute Nicolas, peut-être que tu devrais être sage, tu devrais peut-être prendre le premier livre de la Bible, donc le livre de la Genèse, et on verra plus tard pour revenir dans cette affaire du livre de l'Apocalypse. Mais la Bible montre bien que les premiers chrétiens, les premiers croyants, ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, le texte nous dit clairement que les premiers croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que le texte qui nous est donné dans Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et moi, la question que je me suis posée, je me dis, mais pourquoi ces hommes et ces femmes ont persévéré dans l'enseignement des apôtres? Parce que, tout simplement, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Moi, je voudrais quand même vous rappeler une chose. Nous avons le privilège d'avoir la Bible complète, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament n'était pas écrit. Il y avait besoin, à l'époque, d'entendre les enseignements que le Seigneur avait dit aux apôtres, d'accord ? Et les apôtres, à leur tour, devaient enseigner toutes les personnes qui venaient à l'Évangile. Et c'était quelque chose d'important, c'est-à-dire la parole d'un apôtre était quelque chose de clair, de transparent, c'est-à-dire que tout ce qu'il disait était parole d'Évangile. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce que quelque part, je me dis, ça allait fonder l'Église primitive, et que petit à petit, au fur et à mesure des enseignements qui étaient donnés, eh bien, l'Église, petit à petit, allait prendre forme et allait grandir de plus en plus dans toute la Méditerranée. Donc, c'était important d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, il persévérait dans l'étude de la parole de Dieu. Je me dis, il y a quand même matière à réfléchir, là, pour nous, en tant que chrétiens, au XXIe siècle. Est-ce qu'on aime étudier la parole de Dieu? Est-ce qu'on aime prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, de regarder ce que la Bible a à nous dire dans notre quotidien? La Bible, pour le monde, elle est assommante, elle est obscure, elle est même difficile à comprendre pour certaines personnes. C'est la Bible même qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 qui dit ceci: l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et elle ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous imaginez un païen lire la Bible? Un homme sans Dieu, un journaliste au 21e siècle prendre le temps de lire la Bible? Mais il va dire n'importe quoi, surtout sur les évangélistes. Pas sur les évangéliques, sur les évangélistes. Je me dis, mais des fois, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Et certains journalistes qui veulent essayer d'expliquer un petit peu, alors eux, ils font la malgarde. J'ai entendu récemment un ministre qui nous mettait dans le même sac que les musulmans. Je me dis, cette dame, elle devrait venir dans notre église pour voir qu'on n'est pas du tout comme les musulmans. Et que bien souvent, on fait une amalgame des choses qu'on ne connaît pas, au lieu simplement de s'y intéresser un petit peu à cette Bible. Alors, moi, je me dis, voilà, le monde nous considère parfois comme des personnes éloignées, des personnes illuminées. Mais bien souvent, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on dit parfois n'importe quoi. Il fallait me voir, au début, quand j'ai lu le livre de l'Apocalypse, ce que je pouvais dire sur ce livre. Je disais n'importe quoi. Heureusement que le Seigneur est passé par là. Il m'a dit, écoute Nicolas, calme-toi un petit peu. Essaye de l'étudier ce livre, tu verras qu'il y a des choses très intéressantes. Depuis le début de mon ministère, je vous encourage à lire la Bible. Prenez un quart d'heure par jour, 10 minutes par jour. Prenez le temps de lire la Bible et vous allez voir que votre œil va s'illuminer. Votre œil va prendre de la compréhension par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'au plus vous allez la lire, au plus vous allez l'aimer, la parole de Dieu, et au plus vous allez avoir envie de la connaître et de connaître son message. La Bible ne s'arrête pas uniquement dans le psaume 23. La Bible ne s'arrête pas uniquement dans le Genèse chapitre 1er ou Matthieu chapitre 1er. La Bible, c'est un ensemble. Et le message, c'est un ensemble complet. Aujourd'hui, on dit beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible, où on prend uniquement qu'une partie de la Bible pour se faire plaisir. Et je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait apprendre à la connaître, cette parole. Je voudrais vous lire un passage bien connu. C'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Alors vous connaissez l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Eh bien, retenez 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà, toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce que vous lirez dans la parole de Dieu va vous porter du bien-être, va vous encourager, va vous éveiller votre conscience, va vous interpeller. À force de lire la Bible, je m'arrête même maintenant avant les virgules, après les virgules. Je me dis, mais parfois le Seigneur a fait l'accent là-dessus. Je me dis, mais ces choses-là, je ne les avais pas au début. Et c'est à force de lire la parole de Dieu que j'y ai découvert des richesses dans la parole de Dieu. Au plus je la lis, au plus j'ai envie de la lire. Au plus je prends le temps d'étudier la Bible, au plus je me dis, mais j'en ai pas assez de toute une vie pour l'étudier. Et je crois que l'amour de cette parole doit être mis à l'avant. Le monde ne l'aime pas. Le monde, la Bible, ne l'aime pas. Nous, en tant que chrétiens, nous devrions l'aimer. Nous devrions la chérir. Nous ne devrions plus la laisser dans notre bibliothèque ou sur notre table de chevet. On devrait apprendre à la lire tous les jours afin de mieux connaître le message de la parole de Dieu. C'était le signe d'authenticité des premiers chrétiens. Ce n'était pas du toc. Les premiers chrétiens aimaient écouter les apôtres. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Et dire que quelqu'un, si un jour vous écoutez quelqu'un qui vous dit « Moi, je suis apôtre », waouh! La Bible dit qu'il y a pendant que tu vois Jésus-Christ ressuscité, là. Moi, quelqu'un qui se dit apôtre aujourd'hui, il est gonflé, hein. Littéralement, hein. Je crois qu'il faut faire très attention, parfois, dans ces paroles qu'on peut entendre, parfois, qui ne sont pas du tout dans la parole de Dieu. Oui, la Bible montre bien que ces premiers chrétiens, pour marquer leur authenticité, ils aimaient écouter la Bible. Je vous ai encouragé dans le passé. Je vous ai encouragé cette année, en 2019. Je continuerai à vous encourager en 2020 à lire la Bible. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Troisième signe de la grâce, troisième signe d'authenticité, c'est le lien fraternel. Alors je continue dans le message qui était commencé la dernière fois, le lien familial. Voici ce qu'il est dit dans le verset 42 du même texte dans Acte 2, le verset est 42, la suite, dans la communion fraternelle. Donc, il persévérait dans la communion fraternelle. C'est un mystère pour beaucoup, cette affaire de communion fraternelle. Certains pensent que on a la communion fraternelle le dimanche matin. Et que, après le dimanche matin, c'est terminé, cette affaire de communion fraternelle. Et pourtant, la Bible nous montre bien que les premiers chrétiens aimaient se retrouver ensemble. Ils aimaient partager ensemble. Ils formaient qu'une seule âme, un seul esprit, nous dit la parole de Dieu. Ils aimaient passer du temps ensemble, à prier ensemble, à partager ensemble, à vivre la vie ensemble. Alors, ça fait partie de ce fameux dialogue que nous avons aujourd'hui, donc dans le sens communautariste. Les évangéliques sont des communautaristes. Oui, pourquoi pas? J'aime bien ce terme. Oui, mais en même temps, je préfère être avec quelqu'un qui croit la même chose que moi que quelqu'un qui ne fait pas ou ne croit pas la même chose que moi. Et je pense que c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire en tant que chrétien, de passer du temps avec d'autres chrétiens. J'aime bien la pensée citée dans Ruth. Vous savez, Ruth, à un moment donné, il y a quelqu'un, Naomi, qui vraiment était à un moment donné dans une affaire vraiment difficile. Et elle dit à un moment donné à Ruth, ne me repousse pas de te quitter, ne me détourne pas de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera ton Dieu. Et c'est très important de le vivre dans le quotidien. On est citoyen, c'est vrai, de Dieu, on est citoyen avec Dieu, mais en même temps, le Seigneur nous demande de participer dans cette communion fraternelle, et c'est bien plus que se retrouver le dimanche matin. C'est bien plus que se retrouver le dimanche matin. C'est la communion fraternelle, c'est quand on entend quelqu'un pleurer, bien le pleurer avec lui. Quand on entend quelqu'un vivre un moment difficile, eh bien c'est de pouvoir partager avec lui. C'est vrai qu'il est beau et agréable de demeurer ensemble, mais il faut le vivre, cette affaire de demeurer ensemble. Et je pense que c'est pas toujours évident de demeurer ensemble. Et je crois que nous devons apprendre à vivre ensemble. Les divertissements, les distractions du monde nous éloignent complètement de Dieu si nous ne faisons pas attention. Nous n'avons pas besoin de cela pour nous distraire. On peut vivre une vraie communion fraternelle en étant ensemble. Quatrième signe de la grâce, c'est la découverte de la prière. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez en la prière? Oui. 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 Oui ou oui, non?
Oui. La prière oui.
D'accord. Je retiens ça. J'ai bien entendu que oui. Vous croyez à la réunion, vous croyez à la prière. Moi, la question que je voudrais vous poser, alors pourquoi vous ne venez pas à la réunion de prière? Pardonnez-moi, mais c'est naturel. Parfois, on fait ça aux enfants, vous savez, des fois on pose une question à un enfant, et un enfant vous répond vraiment naturellement. Alors j'ai insisté un peu, mais moi, la question que je voudrais vous poser, si vous croyez à la prière, pourquoi vous ne venez pas à la réunion de prière? Alors, laissez-moi terminer, et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi je dis cela. On est les spécialistes des excuses quand on parle de la réunion de prière. Je suis persuadé, si demain je vous prends au défi, je vais vous inviter à la maison, je suis persuadé que vous allez venir. Parce que si je vois, on vous offre un restaurant ou un bon repas chez moi, Je suis persuadé que vous allez me dire oui de suite. Je suis persuadé que si demain, je dirais tout simplement, écoutez, je gère vos enfants. Vous me les laissez, je vais m'en occuper toute une journée. Je suis persuadé que beaucoup de familles ici diraient, allez, prends-les, ça va me libérer pendant toute une journée. Et je suis persuadé que vous seriez très contents que je vous libère toute une journée, parce que il y a beaucoup de choses que vous ferez cette journée grâce au fait que le pasteur à mes enfants, il s'en charge pendant toute une journée. Eh bien, la réunion de prière, vous venez pas pourquoi? Voilà les excuses que j'ai entendues pendant 20 ans que je suis dans le ministère ici, et que j'ai entendues avant de venir dans le ministère. Ce ne sont pas les bonnes horaires. Trop tôt. Trop tard. Ce n'est pas le bon jour. Vous avez choisi le mauvais jour. Vous n'avez pas été inspiré pour ce jour-là de la réunion de prière. Il y a peu de monde à la réunion de prière. J'y suis déjà allé une fois. J'ai fait la tentative. Mais il n'y a personne ici quand on prie. Il n'y a que des vieux. C'est toujours les mêmes personnes qui prient. Ça, c'est les jeunes qui disent ça. C'est mort. Ils n'ont pas l'envie. On prie pour que des bobos personnels. Je suis persuadé qu'à cette liste, vous pourriez encore rajouter la vôtre. J'étais gentil, j'en ai mis que quelques-uns de sujets. Mais je suis persuadé qu'à cette liste, n'est pas exhaustive. Vous pouvez rajouter à cette liste peut-être 2, 3, 4 excuses non fondées par rapport à la prière, puisque vous m'avez tous dit que vous croyez à la prière. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un clochard qui a été transformé. Cette histoire est une histoire vraie. Elle se passe en Écosse. Un homme qui un jour a pris la décision de recevoir chez lui un clochard. Une fois par semaine, il l'a invité à sa table. Il lui a donné accès à sa salle de bain, à se nettoyer complètement. Il lui a fourni du gel douche, du déodorant, de l'après-rasage. Enfin, c'était la totale pour le clochard. Un jour, cet homme lui a proposé de mettre son linge dans la machine à laver. Résultat, tous ses vêtements sont partis en miettes dans le tambour de la machine à laver. Irrécupérables, ces vêtements. Pas de problème pour cet homme. Il avait acheté là un beau costume et il lui a dit, écoute, je vais te l'offrir, tu vas le mettre et ça va être pour toi ton nouvel habit. Et ce clochard a pris la décision du jour au lendemain d'aller se promener dans la rue. Tout le monde voyant ce clochard, au début, il était évité. Avec son nouveau costume, son nouvel habit, sa nouvelle façon de présenter, il était abordé maintenant avec plaisir. On abordait ce clochard avec plaisir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il les sentait bon, parce qu'il avait un nouveau costume, parce qu'il était complètement différent de ce qu'il était au début. Eh bien, la réunion de prière devrait être abordée avec plaisir. Il fait bon d'être là où le Seigneur nous demande d'être, parce que la Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Dieu est là à la réunion de prière. Bien sûr que Dieu est là dans votre chambre. Je ne veux pas mettre en doute un instant, quand vous prenez un temps individuellement dans votre chambre, que la Bible ne dit pas que « entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le secret, le Seigneur y est ». Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais la Bible dit aussi que les chrétiens étaient ensemble, assidus, dans un même lieu, et qui priaient ensemble. Dieu est là, Dieu voit, Dieu répond à la prière. Trois raisons pour venir à la réunion de prière, à courir à la réunion de prière. Dieu répond à la prière aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Dieu répond à la prière? Moi, je le crois. Moi, je crois que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. J'en veux pour preuve. Hier, nous avons assisté une fois par mois dans une réunion que nous avons à Malais-le-Grand. Il y a deux couples ici qui ont vu la même chose que moi. Donc, si je l'avais vu tout seul. Moi, je priais pendant des mois et des mois pour une certaine sœur qui s'appelle Danielle, qui est venue, je crois, une fois ou deux ici, sur un fauteuil roulant. Et ma seule prière, c'est à chaque fois que je la voyais, dans ma tête, en revenant avec la voiture de cette réunion, je dis « Seigneur, aide-la. Elle a de la foi, cette jeune femme. Aide-la dans sa foi. » La seule chose qu'elle a demandé, c'est de se lever de son fauteuil. Et hier, elle a manifesté sa foi. Elle s'est levée de son fauteuil. Et je me dis, mais c'est pas parce que le pasteur a prié pour cela. D'autres ont prié. Des frères et des sœurs ont prié pour cette jeune femme. Mais j'ai vu un miracle. J'étais dans l'étonnement. Je me dis, mais Seigneur, tu réponds à ma prière. Et j'étais seul dans ma voiture, c'était pas dans ma chambre. J'étais seul dans ma voiture. Je demandais simplement au Seigneur, aide cette jeune femme. Elle croit qu'elle peut se lever, elle croit dans sa foi qu'elle peut se lever, aide-la. Voyez-vous, je pense qu'on croit tous à la réunion de prière. On croit que Dieu répond à la prière. Moi, la question que je voudrais vous laisser en suspens ce matin, pourquoi vous ne venez pas à la réunion de prière? Si vous y croyez, si vous croyez que Dieu peut faire des miracles, si vous croyez que Dieu peut changer votre vie, si vous croyez que Dieu peut changer une situation, pourquoi vous ne prenez pas le temps de venir prier avec vos frères et sœurs? Une autre histoire, ça je l'ai reçu sur mon téléphone portable. C'était une personne qui était dans un bateau. Je ne sais pas qui a eu déjà cette histoire. C'est une personne qui était dans un bateau. Et ce bateau, à un moment donné, il a coulé. Et il était le seul survivant dans ce bateau. Il a nagé, à un moment donné, il s'est accroché à une bouée ou à un bout de bois. C'était le seul survivant dans ce bateau. Et il s'est retrouvé dans une île déserte. Après quelque temps, avoir vécu dans cette île déserte, il a commencé à se faire à cette idée, eh bien voilà, je vais rester là, dans cette île déserte, je vais me nourrir de ces quelques fruits, de ces quelques racines qui sont là, je vais prendre le temps, petit à petit, je vais me construire une belle petite cabane. Mais voilà. Un soir, il a fait du feu. Il est arrivé à faire du feu. Il a trouvé une allumette. Et il a fait du feu. Et la cabane, dans la nuit, elle est partie. Elle a brûlé la cabane. Ça a fait un feu de joie, cette histoire de cabane. Et à un moment donné, cet homme dit, « Seigneur, mais tu m'as permis voilà, de couler. Je me suis retrouvé dans une île déserte. J'ai plus rien. Tu m'as enlevé même mon toit. J'avais un toit. Tu as permis, tu me l'as enlevé par ce feu qui a brûlé. Je ne comprends pas ton plan. Je ne saisis pas trop bien ce que tu veux me dire au travers de toute cette épreuve que je suis en train de vivre. » Je continue l'histoire. Il était sur la plage. Et à un moment donné, il voit un bateau au loin s'approcher de plus en plus de lui. Et ce bateau va venir le délivrer de sa solitude. Et la question que le monsieur va lui poser à un moment donné, à son capitaine, il dit, mais comment vous avez, vous savez que j'étais ici, puisque j'étais seul, je suis loin de tout, il n'y a personne qui est passé par là. Et le capitaine lui a répondu, on a vu un feu au loin. Et c'est grâce à ce feu que nous nous sommes approchés de cette île. Voyez-vous, il y a des fois où on peut se poser toutes sortes de questions. On ne comprend pas pourquoi Dieu permet-il telle ou telle situation dans notre existence. Et des fois on se dit, mais pourquoi ça? La question, c'est pas pourquoi ça. C'est, Seigneur, si tu as permis cela, c'est que tu vas me permettre de voir quelque chose encore de plus grand. Et je pense que dans la réunion de prière, c'est que nous devons comprendre ça. Dieu veut quelque chose de plus grand dans notre vie. Au plus Dieu a répondu à mes prières, au plus je me suis agenouillé. Au plus Dieu me répond à la prière, au plus j'ai envie de m'approcher de Dieu dans l'intimité et de prier encore davantage. Et je crois que c'est ça que nous devons comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Un réel enfant de Dieu authentique prie. Seul dans sa chambre, je veux bien l'admettre, mais aussi dans la communauté. Avec les autres, il doit prendre le temps à prier avec les autres. Cela prouve de son authenticité. Je vous ai parlé du clochard. Je vous ai parlé de ce personnage qui s'est retrouvé seul dans une île. Je voudrais vous parler maintenant des chrétiens, de l'Église primitive. Actes chapitre 12. Pierre a été emprisonné. Il était en prison. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils n'ont pas regardé un film hein, ce soir-là. Hein? Ils ont prié. Et c'est étonnant. Même cette servante Rose qui va venir dire « Pierre est là !» Ils étaient tellement en train de prier qu'ils n'ont même pas voulu croire que Dieu avait répondu à la prière. Ils étaient tellement omnibulés par leur instant précieux avec Dieu qu'ils n'ont pas voulu croire que Pierre était à la porte. Mais Pierre est comme un bon chrétien aujourd'hui, il tape fort à la porte pour dire « Je suis là! Vous avez répondu! Dieu a entendu votre prière !» Et je pense qu'on est pareil parfois. Je voudrais vous lire le verset 18, le verset 16, pardon, du chapitre 12. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous avez plein de frères et de sœurs qui sont en prison. Vous avez plein de frères et de sœurs qui vivent des moments difficiles dans leur vie et qui ont besoin de vous pour prier. Est-ce que nous comprenons ça? Il y a des gens qui ont besoin qu'on prie pour eux. Vous avez besoin de prier pour les autres. Mais vous avez besoin de prier aussi pour eux. Parce que Dieu a permis une épreuve difficile dans leur vie. Et Dieu veut les libérer. Verset 18. Non, pas le verset 18. Le verset 13, si j'ai bien ce que vous dites. Je me suis trompé de verset, pardonnez-moi. Mais relisez le texte, vous allez voir que Pierre va être libéré, et à un moment donné, et Rhodes va lui ouvrir la porte, même si à un moment donné elle ne comprenait pas. Excusez-moi, j'ai oublié le verset que je voulais dire à la fin, mais il est très important de le rappeler. Nous devons prier les uns pour les autres. Et c'est quelque chose d'important. Ça prouvait l'authenticité du chrétien du début, de l'Église primitive. Une Église qui prie est une Église qui voit des choses extraordinaires. Si vous croyez à la prière, j'espère que la prochaine fois, quand on fera une réunion de prière, l'Église va être pleine. Vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez plus d'excuses. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, vous avez des frères et des sœurs qui sont en prison et qui ont besoin de vous pour être libérés. Amen.